Nasrin, comment se répare-t-on de la souffrance de l'exil ?
Au moment même où je décide de quitter l'Afghanistan, l'angoisse m'envahit. Comment quitter ce pays qui m'a élevé, que j'ai respiré, qui m'a permis de faire des études, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Ma famille, mes amis, mon travail que j'aime, l'odeur de mon pays. Autour de moi, tout le monde disait « Nasrin ne pourra jamais partir ». Et puis, l'école de ma fille a été touchée par une roquette. Elle est rentrée à la maison, elle s'est évanouie. L'eau du jardin d'enfant de mon fils a été empoisonnée. Mon mari était suivi. Tout cela m'a angoissée et en même temps, le lien que j'avais avec mon pays m'empêcha de prendre la décision de partir. Jusqu'à minuit, la veille du départ, je n'arrive pas à faire ma valise. J'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. Je touche les murs, les arbres, pour garder le souvenir. Je respire l'air pur. Il y a la bibliothèque dans notre maison où j'avais rassemblé tant de livres depuis des années, de si belles choses, obligées de tout quitter. Mon mari m'a dit, « Écoute Nasrin, essaye de sauver les deux petits, emmène-les avec toi. Moi, je m'occupe des deux grands qui peuvent courir et me suivre. C'est peut-être la seule chance de sauver au moins deux enfants. Je ferai tout pour sauver les deux autres. C'est la guerre qui nous sépare. » Dans l'avion pour l'Inde, j'ai beaucoup pleuré sur l'innocence des enfants qui n'avaient pas mérité cette guerre. Mourir pour le pays, je vois bien, mais pas sous le bombardement des ennemis. Cela ancrait l'espoir qui m'a nourri dans ma vie d'après. L'espoir de faire quelque chose pour ne pas laisser l'Afghanistan sombrer dans l'oubli. Quand on arrive dans une autre culture, on a le désir de s'intégrer, même si on a toujours l'espoir de retourner au pays. Le plus dur dans la rupture, cela a été le travail. On m'a offert de faire des ménages. J'ai toujours refusé. Je ne critique pas ce métier. Mais je me disais, je ne sais pas le faire. Pourquoi on me le propose? Peut-être que je ne suis pas capable de faire quelque chose de mieux. Petit à petit, j'ai perdu la confiance en moi. Et puis, en 1996, j'entends parler de la fermeture des écoles de filles en Afghanistan, de la fermeture du lycée Malalai. C'est un choc terrible pour moi. Comment peut-on fermer tous les chemins de vie pour les femmes et les filles? Avec mes amis Annie Léon, Daniel Brion et Janine Faucheux, nous décidons de créer une association en 1998. Cela m'a rassurée quelque part. Alors que toutes les écoles étaient fermées, je pouvais faire quelque chose pour les filles de mon pays, quelque chose sur lequel j'étais compétente. En juillet 2002, après 14 ans d'exil, je retrouve Kaboul. Le 16 septembre, je pose la première pierre de l'école Latifa Shahid, Latifa Martyr, à Istalef. C'est moi qui ai proposé ce nom en hommage aux femmes et aux filles qui sont mortes sous les bombardements soviétiques. Latifa était l'une d'entre elles. À l'inauguration, comme d'habitude, ce sont des hommes qui coupent le ruban. Soudain, on m'appelle. Un des invités, le grand philosophe afghan, M. Mohseni, dit « Attendez, ce n'est pas à moi de couper en premier. Appelez la dame qui a fait tout pour en arriver là. » Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette question-là.
Nasrine, vous n'imaginiez pas qu'un jour, vous seriez obligée de vous intégrer dans un autre pays. Que retirez-vous de cette expérience de vie ?
Pour s'intégrer, on ne doit pas perdre sa culture, sa langue et sa religion, même si au début, surtout, cela ne laisse pas encore vraiment de la place pour s'ouvrir à la culture du pays où on vit. Nous, on a essayé de connaître les voisins et les gens du quartier. On les a invités à goûter nos spécialités culinaires, car l'accueil est important dans notre pays. Cela n'a pas empêché d'avoir des moments difficiles, d'être sous le regard de rejet de l'autre. J'ai été pendant un an, en 91, animatrice dans un quartier où vivaient des jeunes de 30 nationalités différentes. J'ai découvert les femmes qui venaient depuis plus de 20 ans en France et qui savaient à peine parler français. Mais la langue, c'est la liberté. Pourquoi n'ont-elles pas appris ? Elles disaient, j'ai des enfants, le ménage, les repas, je n'ai pas le temps. Je les ai encouragées en créant un lieu de rencontre sur le quartier dans le cadre de ma formation. On faisait des activités manuelles et elles parlaient de leurs problèmes, l'isolement, la nostalgie, l'inquiétude de l'avenir, la souffrance quotidienne, s'atténue en écoutant les autres et en cherchant à mieux les connaître. Je crois à cette mixité interculturelle, à condition qu'on travaille là-dessus, qu'on accompagne, qu'on respecte. Respecter les gens dans leur culture, leur religion, leur langue, cela fait partie de l'intégration. Comme je le dis toujours, j'ai 3 défauts. Je suis étrangère, musulmane et afghane. Pour pouvoir ouvrir les liens, j'ai dû me battre parce que j'ai vécu des choses, le refus des gens, des jalousies qui m'ont empêché d'avancer. Mais j'ai aujourd'hui cet espoir et cet esprit positif qui m'ont permis de vivre en paix avec moi-même et d'avoir beaucoup appris de toutes les cultures. Ne jamais oublier que l'intolérance vient de l'ignorance.
L'association Malala est depuis sa création en avril 1998, lutte pour l'éducation et la formation des femmes afghanes. Pourquoi est-ce une priorité alors qu'en Occident, le leitmotiv est plutôt l'égalité ?
Vous savez, l'éducation, c'est un élément essentiel dans les pays musulmans. Et mon combat est celui-là. Éduquer le maximum de filles qui seront à leur tour éduquer leurs enfants. Dans ce que nous avons fait à l'association Malalai, je suis contente de voir que des femmes ont trouvé leur place. Les femmes afghanes ont leur combat politique, mais pour beaucoup d'entre elles, leur premier combat au quotidien, c'est de nourrir les enfants. Il y a des grands titres dans les pays occidentaux qui disent « égalité femmes-hommes ». Nous, on ne peut pas insister là-dessus. On est un peu loin de ce combat-là. Le nôtre, c'est d'avoir une place, d'être considéré comme quelqu'un qui peut décider toute seule, selon ses choix, pour le mari, le travail. Bien sûr, il y a toujours les attentats quotidiens, l'absence de sécurité, l'analphabétisation, la corruption, des gens qui mettent leur vie en danger. Malgré cela, les femmes avancent. Depuis 2002, je vais chaque année en Afghanistan. Je vois l'évolution aujourd'hui. sur 374 communes des 34 provinces d'Afghanistan, plus de 300 femmes sont présidentes de commissions. Il y a des femmes parlementaires, ministres, journalistes. Cette évolution, cela me donne envie d'avancer quand je vais au lycée à Istalef et que j'entends les lycéens avoir une parole forte, cela me renforce dans mes objectifs. Ces paroles de femmes, j'ai commencé à les collecter en Afghanistan et ailleurs où la vie les a menées, au Pakistan, aux États-Unis, en Europe. Leurs témoignages me bouleversent et rassurent parce que ces femmes ont à la fois un cri et un rêve. Leurs cris, ce sont des conditions de vie difficiles, leur soumission aux décisions des hommes qui les menacent, qui leur mènent la vie dure, les obligent au silence. Elles sont rejetées, considérées comme des femmes au passé. Leur rêve, c'est de faire des choses positives, d'avoir des projets qui se réalisent. Chacune, à leur niveau, mène le combat de l'émancipation. Toujours, elles ont en tête de travailler pour que les femmes avancent. Même à la campagne, les femmes qui ont eu la chance d'aller à l'école dans des cours d'alphabétisation, elles sont fières d'apprendre aux autres femmes à lire et à écrire. En Europe, les Afghanes ont appris ce qu'était le divorce. Ce n'est pas toujours une solution, surtout avec les enfants. Il faut parfois savoir être tolérante et respecter l'homme car il a besoin de ce respect lié à la tradition. Si on ne le respecte pas, nous les femmes, on ne sera pas respectées dans la vie quotidienne. C'est réciproque. Et nous ne pourrons pas avancer sans eux. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a encouragée et m'a fait confiance. Quand j'ai obtenu ma bourse d'études pour aller à Poitiers, il m'a dit « Ma fille, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas moi qui t'accorde cette bourse, c'est toi qui as tout fait pour la mériter. » À ma tante qui protestait, il a répondu « Arrêtez de parler comme cela de ma fille. Je la connais et j'ai confiance en elle autant que de mes garçons. » Mon mari aussi m'a encouragée à partir seule en Afghanistan, malgré les nombreuses critiques. Bien sûr que moi aussi, j'entends des critiques, mais je n'écoute pas les choses négatives. J'avance avec ce que me soutient, ma religion, mes convictions, ce que je constate sur le terrain, comme cette cinquantaine d'hommes qui se sont levés alors que j'entre dans la salle de réunion à Istalef. Cela, la femme qu'ils ont saluée et pas Nasrin Abiar. Je leur ai souvent expliqué comment on se bat en France avec l'association. On ne fait pas cela pour nous. On est tous et toutes des bénévoles. L'argent récolté va directement au projet. Quand tu les regardes dans les yeux, les gens comprennent, ils respectent, ils ressentent ce que tu ressens au fond de toi, l'attachement profond au pays. Notre prochain projet, c'est la construction d'une bibliothèque pour tous à Istalef. Il ne faut pas oublier que le danger est partout en Afghanistan et qu'avec ce projet, on prend des risques. Mais si on ne prend pas de risques, on ne pourra pas aller de l'avant. C'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses. Ce combat, c'est mon combat et je le continuerai jusqu'à la fin de mes jours.